Gloire à Dieu. Bonsoir à chacune, à chacun. Je désire ce soir partager avec vous à nouveau un texte dans le livre des Lévitiques et nous allons prendre le premier chapitre et lire donc du verset 1er jusqu'au verset 17. Lévitique, chapitre 1er, verset 1er, où précédemment, lors d'un mardi soir, nous avions partagé ensemble une des significations des deux premiers sacrifices du Lévitique. Et nous allons partager ce soir la troisième signification. Je ferai un récapitulatif très rapide pour ceux qui n'étaient pas là, et puis pour chacun d'entre nous, pour bien nous remémorer le contexte dans lequel Dieu nous donne cet enseignement. Lévitique chapitre 1er verset 1er, « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si une offrande, son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux. Et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Ce livre plein de symboles, plein de signes prophétiques aussi, n'est pas si simple effectivement à saisir dans sa profondeur à la première lecture. Je vous renvoie à la première prédication qui serait, je dirais, la première partie. Et ce soir, ça pourrait constituer la deuxième partie. Mais je vais très rapidement rappeler ce que nous avions vu. C'est que si le Seigneur nous parle de ses sacrifices et que la parole de Dieu est là, c'est pour que nous en comprenions le sens et pas uniquement le sens au niveau théologique, au niveau connaissance historique, mais le sens pour nous aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Je ne vais pas rappeler tout parce que bien sûr, il y a beaucoup de détails à rappeler à énoncer, mais je vous renvoie donc à ce premier message. Vous irez voir Michaël ou Jonathan, je pense qu'ils le retrouveront. Simplement, vous rappelez que nous avons lu qu'il y a trois sacrifices. Trois sacrifices, et on peut dire déjà que ces sacrifices sont, entre guillemets, du plus riche au plus pauvre. Déjà à l'époque, celui qui était le plus riche, quelqu'un qui était riche, qui avait les moyens, dans le peuple d'Israël, il pouvait venir et apporter du gros bétail. Il en avait les moyens. Le premier sacrifice dont il nous est parlé, c'est le sacrifice de gros bétail. Dieu dit, si quelqu'un veut m'offrir quelque chose, si quelqu'un a désir de donner quelque chose volontairement, une offrande volontaire, si ça vient de son cœur, il faut qu'il offre quelque chose en holocauste. Il faut que ce soit un holocauste. Premièrement, l'holocauste, c'est tout est brûlé, tout est consumé. Il ne gagne rien, il ne garde rien, tout est pour Dieu. L'holocauste, c'est je donne tout et je ne garde rien. C'est le symbole de ce premier sacrifice, du sacrifice parfait. Qui a donné sa vie parfaitement ? Jésus-Christ. C'est le symbole de Jésus-Christ, le gros bétail offert en holocauste, c'est le symbole de Jésus-Christ qui s'est offert à Dieu pour nous. Il s'est offert devant Dieu d'abord pour nous. Et dans ce sacrifice, il y a une perfection extraordinaire et des richesses insondables. Donc je vous renvoie à ce premier message. Mais simplement, nous rappeler que dans ce sacrifice, il y a la perfection, il y a Christ qui s'offre pour nous afin que nous soyons sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toi ce soir, peut-être quelqu'un qui vient qui ne connaît pas Dieu, quiconque, toi, ce quiconque, c'est toi. Tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais tu es la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et puis, il y a un deuxième sacrifice. Quelqu'un qui n'avait pas les moyens, qui était plus pauvre, et qui venait, il ne pouvait pas offrir du gros bétail. Alors, il offrait du menu bétail. Et bien sûr, Dieu n'est pas en train de dire qu'il agrée davantage les riches que les pauvres. Mais il y a une signification spirituelle pour nous qui nous amène à comprendre qu'il y a un parallèle entre cette réalité concrète matérielle et la réalité spirituelle de nos vies. Il y a un sacrifice qui est plus pauvre, il y a une communion qui est plus pauvre avec Dieu, il y a une manière plus pauvre de vivre sa vie spirituelle, c'est d'offrir du menu bétail. Quand on offre du grand bétail, c'est le symbole de Christ qui s'est offert. C'est sa grâce qui nous sauve, c'est lui qui m'a sauvé. On sonde les perfections de Christ et on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand j'offre du menu bétail, je comprends un peu moins bien les conséquences de l'œuvre parfaite de Christ dans ma vie. Je comprends un peu moins bien la croix, je comprends un peu moins bien la résurrection. Dans ce deuxième sacrifice, il y a des omissions. C'est-à-dire que quand on lit tout le passage, vous l'avez lu avec moi, on a l'impression que Dieu se répète. Mais Dieu ne se répète jamais pour ne rien dire. Quand Dieu se répète, c'est pour nous montrer une réalité. Premier sacrifice, il y a certaines choses que Dieu demande. Deuxième sacrifice, un peu plus pauvre, il y a des choses qui ne sont pas là. Ces détails sont là pour nous enseigner. Par exemple, dans le sacrifice plus pauvre, qui correspond à une manière plus pauvre d'avoir une communion avec Dieu, il n'y a pas ce qu'il y avait dans le premier sacrifice, c'est-à-dire la notion d'entrer dans la tente d'assignation, l'entrée dans la tente d'assignation, et j'avais expliqué que une manière plus pauvre de vivre sa vie spirituelle, c'est quand on ne comprend pas que la mort de Christ, c'est pour nous permettre d'avoir une communion aujourd'hui avec Dieu. La mort de Christ à la croix, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début. Celui qui offrait le gros bétail, il offrait à l'entrée de la tente d'assignation. C'est ce qui lui permettait d'entrer ensuite dans la présence de Dieu. Ce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, c'est ce que Christ a accompli. Donc après la croix, il y a la résurrection. Et donc je vis en nouveauté de vie. Deuxièmement, il n'y a pas non plus la notion d'obtenir sa faveur. Quand on perd la notion de la grâce et qu'on oublie que si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Si je suis debout, c'est la grâce de Dieu. Si je peux marcher, c'est la grâce de Dieu. Et quand on oublie ça, on commence à juger les autres et à montrer du doigt. Eh bien, on peut faire des jeûnes et prières pendant toute une année, notre sacrifice devant Dieu, c'est-à-dire notre service, notre vie de foi, elle est plus pauvre. Peut-être même qu'un petit enfant qui fait une prière simple de cœur, mais qui est humble et qui ne juge pas les autres, parce qu'il a compris que c'est par grâce qu'il a obtenu tout ce qu'il a. Troisièmement, il n'était pas non plus fait mention de l'Israélite qui pose sa main sur la victime. C'est-à-dire, il y avait le gros bétail, et à l'entrée de la tente d'assignation, il le sacrifiait, et en le sacrifiant, il posait sa main sur la tête de la victime. Il y avait là une notion d'identification avec la victime. C'est le symbole d'un chrétien qui s'identifie avec Christ. Quand on a une vie plus pauvre spirituellement avec Dieu, Dieu nous dit, c'est pas forcément ce que l'on croit aux yeux des hommes, mais c'est ce que Dieu voit. Et Dieu voit qu'il y a peut-être même au milieu de nous ce soir quelqu'un qui n'arrive pas à s'identifier avec Christ. Eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux. Ton service, ta communion avec Dieu, elle est plus pauvre pour lui. L'identification avec Christ, c'est-à-dire réaliser que je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Paul avait dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que Paul est allé à la croix ? Non. Pourtant, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Parce qu'il a compris à un moment donné de son cheminement spirituel que quand Christ est mort, lui aussi est mort avec Christ pour ressusciter en nouveauté de vie. Et alors, il a réalisé qu'il était assis avec Christ dans les lieux célestes. Paul aux Éphésiens. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer dans la foi parce qu'ils restent dans leurs péchés, dans leurs problèmes. Ça fait 20 ans que je suis converti, j'ai toujours les mêmes problèmes. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas réalisé que je pouvais m'identifier avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et qu'aujourd'hui, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc si je ne l'ai pas réalisé, je m'inquiète, je doute, j'ai peur, je suis dans la crainte et je n'ai pas la foi, ou alors ma foi vacille. Mais quand je commence à ouvrir les yeux sur ces réalités, alors, eh bien, le Seigneur nous dit qu'on grandit dans cette communion avec Dieu. J'ai essayé de le résumer le plus rapidement possible. Si certaines choses ne sont pas claires, voilà, je vous renvoie encore au premier message. Mais voyez, ce qui fait un petit peu de la peine, c'est que on va du sacrifice le plus riche au sacrifice le plus pauvre. Et ce soir, nous voyons qu'il y a ensuite le sacrifice d'oiseau, qui est encore plus pauvre, qui nous parle, c'est vrai, de Christ, et je vous l'accorde, certains me diront, ça me parle de Christ. Christ qui est venu, non pas comme un grand roi, riche et plein d'argent, mais il s'est offert, humble, il était le fils d'un charpentier, il n'a pas roulé sur l'or. Et il est venu aussi pour bénir les pauvres. Mais, le fait qu'il y ait mention, et le Saint-Esprit l'a voulu, de certains détails importants qui nous montrent que Dieu dit, voilà, quand il offrira, il devra enlever ceci, il devra enlever cela, il ne devra pas y avoir ceci ou cela, nous montre que ça nous parle davantage de l'appréciation que nous avons de l'œuvre de la croix. La manière avec laquelle j'appréhende, j'apprécie, je réalise l'œuvre de la croix, et je parle d'œuvre de la croix parce que l'œuvre de la croix, c'est Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ glorifié. Et à partir du moment où je parle de Christ glorifié, je parle donc du Saint-Esprit répandu. Parce que Christ a dit, j'irai à la droite du Père, je m'enverrai, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc là, il y a une notion spirituelle de la vie de l'Esprit. Et voyez, le Seigneur, c'est avec plein d'amour qui nous dit, mais voilà, peut-être que certains n'ont pas ouvert les yeux sur certaines réalités de leur communion avec Dieu ou de leur chemin de foi qui a besoin d'avancer. C'est un encouragement, pas une accusation. Et voyez, ce que nous pouvons lire, c'est que au verset 14, si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Et le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Il exprimera le sang contre un côté de l'autel. ce que je remarque, premièrement, qui me frappe, c'est que avant, c'était tout Israélite du peuple qui pouvait venir et offrir son sacrifice. Mais dans un sacrifice plus pauvre, c'est le sacrificateur qui lui-même ouvre la tête de l'oiseau avec son ongle et ensuite qui va le brûler sur l'autel. Il y a une manière plus pauvre de vivre sa vie spirituelle, c'est quand on la vit par procuration, au crochet des autres. Je prends des exemples concrets. Peut-être quelqu'un ne connaît pas Dieu et il est là. On a déjà entendu des gens dire « je me suis fait baptiser parce que quand j'ai vu la foi de mes parents, ça m'a interpellé. » Alors que si tu t'engages avec Jésus, tu dois t'engager parce qu'il est ton sauveur, parce qu'il est ton Seigneur, parce qu'il t'a ouvert les yeux sur ton péché, ton état, sur le fait que si tu ne te repens pas, eh bien l'enfer te tend les bras. Mais Dieu t'aime et il veut te sauver. Et toi, tu dis, je veux te suivre et t'appartenir, je te donne ma vie. Alors tu t'engages avec Christ. Mais peut-être aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent avec Dieu à cause de la foi d'un autre, à cause de la vie d'un autre. La vie des autres sont des témoignages qui doivent nous amener les uns et les autres personnellement à choisir Christ et à le suivre lui et lui seul. Je prends un autre exemple. On peut venir à l'église parce qu'il y a nos amis. Et le jour où il n'y a plus nos amis, on n'a plus envie d'aller à l'église. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te motive ? C'est l'amour pour ton père ou c'est l'amour pour les autres ? L'amour pour les autres, amen. La communion fraternelle, oui, elle est bonne, elle est agréable et Dieu l'a voulu. Mais la première chose qui doit nous motiver dans le fait de venir au culte, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le type de personne qui sera là. Ce qui doit faire ma joie, ce n'est pas le nombre. Elle doit être intacte, qu'on soit 2 ou 2 000. Ce qui fait ma joie, ce qui fait ma consécration, ce qui fait ma louange et ma vie spirituelle, c'est d'abord ma relation avec Christ. Ne me faites pas dire, s'il vous plaît, ce que je n'ai pas dit. J'aime la communion fraternelle. Je vous aime. Et je suis content, heureux de voir comment Dieu chérit son épouse, l'Église, et il nous invite à la communion fraternelle. Mais ce qui nous motive, ça doit d'abord être notre relation avec lui. Je prends un troisième exemple. La prière. Pasteur, priez pour moi. Amen. Mais toi, prie aussi. Eh oui, parce qu'on peut rencontrer parfois des gens qui nous disent « Vous avez prié pour moi ?» Oui. Et vous, vous avez prié, mais c'est pas la peine, vous avez prié pour moi. Et votre prière, elle est plus puissante. Ah là 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 là, superstition, mes amis. C'est Dieu qui est puissant. C'est pas la prière d'un homme. Priez pour moi, oui, on priera pour vous, mais vous aussi priez. Vous voyez, la foi qui s'appuie sur les autres, la foi par procuration, la vie, la communion au travers des autres. Alors, on parle de la prière, mais l'imposition des mains. J'ai entendu un message, je suis touché, je veux venir, je viens à l'imposition des mains, c'est bien. C'est-à-dire, tu veux qu'on prie pour toi. Mais lorsque l'on prie pour toi, au moment où le serviteur de Dieu ou les anciens, enfin ce sont des serviteurs de Dieu, prient pour toi, toi aussi prie dans ton cœur. Et toi aussi, concentre-toi en réalisant que tu es devant Dieu et que Dieu est en train d'agir par le Saint-Esprit. Quatrième exemple concret. L'onction d'huile. Frère, faites-moi l'onction d'huile. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Mais as-tu prié ? Non. Ah. Je reconnais qu'on peut avoir à un moment donné, dans l'assemblée, on est dans un moment de prière, le Seigneur qui nous touche, il y a un problème qui est là à l'attente depuis un moment, et on est saisi dans son cœur et on a envie de l'onction d'huile, on a besoin. Oui, le Saint-Esprit peut ponctuellement, comme cela, nous interpeller. Et on vient, on demande la prière et on dit, je veux aussi l'onction d'huile. Oui, Dieu bénira. Mais ça doit rester quand même, à mon avis, quand je lis la parole, exceptionnel. Parce que quand on lit le contexte de l'onction d'huile, ça ne se fait pas à la légère. Faites-moi l'onction d'huile. Oui, mais j'ai prié chez moi. j'ai cherché la face de Dieu. Faites-moi l'onction d'huile parce que ça fait plusieurs jours que je souffre et que je prie pour être guéri. Et je n'ai pas été guéri. Donc j'appelle les anciens afin qu'ils prient pour moi. Faites-moi l'onction d'huile, mais venez à la maison. Pourquoi forcément à l'église? Parce qu'il est dit, il fera venir les anciens. Donc si les anciens ils viennent à la maison, ils auront tout le temps pour prier avec toi. On ne sera pas là entre deux chants, les offrandes, etc. Vous me comprenez? On prendra le temps de chercher la face de Dieu. On prendra le temps de prier. On prendra le temps de sonder. Parce que si j'ai sondé mon cœur avant de donner l'onction d'huile, peut-être que Dieu m'a mis le doigt sur quelque chose qui n'allait pas. Voilà pourquoi il y a un rapport entre l'onction d'huile et la guérison et le pardon de péché. Parce qu'il est dit aussi, et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. C'est lié, on ne peut pas l'enlever. Ça veut dire qu'on se met devant Dieu et on laisse le Saint-Esprit nous sonder. Donc, ça ne peut pas intervenir dans un contexte de légèreté ou, je dirais, de sursaut humain. Mais il y a une profondeur, il y a une recherche de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, de l'onction de Dieu, de sanctification devant Dieu. Je passe. Mais, voyez, une vie plus pauvre devant Dieu, c'est une vie qui dépend toujours des autres ou des choses. Et on peut glisser vite sur le domaine de la superstition. Parce que finalement, si on n'a pas cherché la face de Dieu, est-ce que l'huile va produire quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a un pouvoir magique dans l'huile? Non. Mais ce qui va faire la puissance de l'onction d'huile, c'est mon cœur répandu devant Dieu. C'est ma foi en la parole qui dit il oindront d'huile. Oui. Et c'est aussi cette foi en Jésus qui délivre. Et cette foi, donc, m'amène à quelque chose de profond et pas de léger. Je prends d'autres exemples. Prière, voyez, imposition des mains, onction d'huile. On prend des choses concrètes pour comprendre dans notre vie quotidienne ce que ça veut dire réellement. La vie au travers des autres. Il nous est dit que là, c'est le sacrificateur, pas un israélite. Alors, c'est le symbole du serviteur de Dieu qui ouvre la tête de l'oiseau avec l'ongle. Plutôt que le chrétien, entre guillemets, lambda, qui vient le faire. Il nous est parlé d'offrande. Il y a une plus grande pauvreté dans notre communion avec Dieu quand nous ne nous appuyons que sur les messages délivrés par les serviteurs de Dieu. Aussi grand, aussi... J'allais dire merveilleux, mais ce n'est pas le terme, il n'y a que Jésus qui est merveilleux. Mais aussi grand, aussi expérimenté que soit un serviteur de Dieu, notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu, la profondeur de notre relation avec lui, notre compréhension de sa parole, ne peut pas dépendre d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas qu'au sacrificateur d'ouvrir la tête de l'oiseau, c'est aussi à l'israélite. Et peut-être que dans ce lieu, il y a quelqu'un qui ne se contente que des messages du serviteur de Dieu. Peut-être qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui se contente uniquement des conseils du serviteur de Dieu. C'est bien de demander conseil. Mais avant de demander conseil à un homme, même si c'est un serviteur de Dieu, il faut demander conseil à Dieu lui-même. Un déménagement, un choix important, une décision à prendre, tenez-vous devant Dieu. Après, si vous n'avez pas la réponse, que vous tâtonnez, que vous avez besoin d'aide, allez demander conseil, mais vous êtes d'abord tenu devant Dieu. Il y a une vie de prière, il y a une demande, il y a une réclamation, il y a eu quelque chose de vrai, de profond. Et votre décision ne dépendra pas uniquement d'un homme. Parce qu'aujourd'hui, moi je lis dans ma Bible qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle comment? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vivre uniquement des messages. Les messages, pour moi, ce sont les desserts. Vous avez déjà vu des gens qui ne mangent que des desserts? Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de diabète. Ils ont des carences nutritives. Ils ont des problèmes de foie. Ils ont de gros problèmes de santé. C'est la même chose spirituellement. On a des problèmes de santé spirituelle quand on ne mange que des desserts. Et le message, la prédication qui vient du haut de l'estrade le dimanche matin ne doit être qu'un dessert. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est le plat de résistance, vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'abord l'entrée, ensuite le plat de résistance. Et s'il n'y a que le plat de résistance, c'est pas grave, mais il y a le plat de résistance. Et c'est ça qui fait qu'on est fort, qu'on est solide. Le plat de résistance, c'est quoi? C'est ma communion avec Dieu. Ma communion de tous les jours. Et peut-être que, voyez, parfois, on vit trop au crochet des réunions, des hommes et des messages. Et il nous manque une communion avec Dieu. Eh bien, il y aura des carences nutritives dans notre vie spirituelle. On n'arrivera pas à se débarrasser de certains péchés parce qu'il manque une communion profonde et véritable avec le Maître. Je donne un témoignage. C'est un jeune qui est parti dans une région excentrée de la France, dans le terroir. Et là-bas, il n'y avait qu'une toute petite église. Quelques personnes, que des personnes âgées. Et quand il est arrivé, il y est allé pour son travail. Il était découragé. Et il priait, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là? J'étais dans une grande église, il y avait plein de jeunes, il y avait de la musique, il y avait des activités. Et là, il pleut, j'ai pas ma famille, je me sens seul. À l'église, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de musiciens. Et en plus, il n'y a que des personnes âgées. Et en plus, pas beaucoup. Et il a eu la réponse à sa prière 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, au travers d'un échange qu'il a eu avec un chrétien de son ancienne église. Il revient dans la grande église. Et puis, là, il discute avec des personnes. Et les personnes étaient effarées. Et justement, une ose lui poser la question. Écoute, Sébastien, il faut que tu nous dises. Il y a 5 ans, quand tu es parti, tu aimais le Seigneur, c'est vrai, tu étais actif, tu avais une implication même dans l'Église. Mais aujourd'hui, tu es transformé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu prophétises, tu le portes sur toi, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et quand il a entendu ça, il a compris pourquoi Dieu l'avait envoyé là-bas. Alors qu'il avait passé parfois des moments difficiles. Mais vous savez ce qui s'était passé? Alors qu'il s'était retrouvé tout seul, qu'il y avait moins de réunions, qu'il y avait moins de personnes, il a arrêté de s'appuyer sur les autres. Et il a commencé à méditer. Il a commencé à piocher. Il a commencé à aller en profondeur. Et ce sacrifice d'oiseau est en train de nous parler aussi de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans le sacrifice de gros bétail, celui qui représente la perfection, que les fils d'Aaron venaient et ils découpaient l'animal, le bétail, en petits morceaux. Ils le découpaient, ils le dépouillaient aussi. Il y avait une notion de profondeur dans la compréhension, dans la connaissance de la parole et dans la relation avec Dieu. Voilà ce que dit Paul. Mon désir, c'est qu'ils soient unis dans l'amour. Il le dit aux Colossiens. Qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Quand on commence à méditer, quand on commence à avoir une vie autonome spirituellement et à arrêter de faire comme les bébés qui se font mettre la cuillère dans la bouche et qu'on commence à prier tous les jours et à le connaître, alors il y a des choses qui changent. Mais tant qu'on en reste à ce niveau-là, il y a des choses qui nous sont cachées. Et on a une vie spirituelle plus pauvre. On n'arrive pas à avancer, il y a des choses qui nous échappent, des péchés qui restent collés à la peau. Seigneur, il t'encourage, va plus loin. Voilà autant d'exemples qui nous montrent une foi par procuration, au crochet des autres. Autre exemple, quelqu'un qui se convertit parce qu'il a été conduit à l'église par un frère qui connaissait beaucoup la parole. Mais voyez, ce nouveau converti, s'il s'appuie toujours que sur ce frère, que sur cette personne, le jour où la personne déménage, tout s'effondre. Autre exemple, un couple. Si dans un couple, les deux n'ont pas une vie personnelle avec Dieu, intime et profonde, et si l'un s'appuie trop sur l'autre, le jour où l'un des deux part, qu'est-ce qui se passe? La foi s'effondre. Parce qu'on le vivait au crochet de la foi de l'autre, on vivait à la remorque de l'autre. Le Seigneur veut nous emmener plus loin, dans une relation avec lui, une maturité spirituelle. J'avance un petit peu. Donc, voyez, le sacrificateur est l'israélite. Non, dans le sacrifice parfait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est toi, c'est le petit enfant, c'est le vieillard, c'est le grand, c'est le petit, c'est tout le monde qui est invité à venir dans la grâce de Dieu au pied du trône de la grâce. Le Seigneur a les bras grands ouverts. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Je pensais aux Béréens, vous vous rappelez? Les Béréens, ils sondaient les Écritures. Ils ne s'appuyaient pas uniquement sur ce qu'ils entendaient, ils vérifiaient aussi ce qu'on leur disait. Voilà une preuve de maturité spirituelle. Donc, il y a cette omission. Ce n'est pas l'israélite, c'est le sacrificateur uniquement qui vient donner cette offrande. Deuxièmement, je note, dans le sacrifice d'oiseau, il ôtera le jabot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour être offert à Dieu qui ne peut pas être dans notre offrande. Je vais essayer d'être simple. Quand je m'approche de Dieu, que je prie, que je lui parle, que j'ai une communion avec lui, il y a certaines choses dans mon cœur qui ne peuvent pas rester selon Dieu si je veux que mon sacrifice soit d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jabot, vous savez ce que c'est? Cette poche sous le cou de l'oiseau qui contient tous les aliments qui n'ont pas été digérés. J'ai pas digéré ce qu'il m'a dit le frère là. Je l'ai gardé là. Je n'ai pas digéré cette attitude. Oh oui, c'est bon, je pardonne. Mais en réalité, je garde dans le jabot. Et là, il y a tout un tas d'aliments non digérés. Mais moi, je lis dans Matthieu 5, si tu te souviens, pas que toi, tu as quelque chose contre l'autre, même, donc c'est encore plus fort, que ton frère a quelque chose contre toi, pose ton offrande avant de l'offrir. Il n'est pas parlé d'argent, il est parlé d'offrande, au sens général. L'offrande, c'est le mot offrir. Quand j'offre une louange à Dieu, c'est une offrande. Quand j'offre ma vie, quand je dis Seigneur, je t'offre, j'offre, même s'il n'y a pas quelque chose de concret comme un billet, de l'argent. Chaque fois que tu veux t'approcher de Dieu, mon frère, ma sœur, si tu veux que ce soit agréé de Dieu, il faut d'abord ôter le jabot. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là et qui a gardé des aliments non digérés. Seigneur, il nous rappelle qu'il a tout pardonné. Seigneur nous rappelle que la puissance de son pardon amène un pardon total sur tous les péchés de l'humanité. Est-ce qu'on peut faire plus fort? C'est extraordinaire. Comment, moi qui suis un homme, puis-je me permettre de ne pas pardonner à mon frère alors que Jésus a pardonné lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il a pardonné au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que je suis plus grand que Dieu pour me permettre? Non. Et Seigneur, il dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas. C'est que le Seigneur a la puissance du pardon, mais voyez, même cette bénédiction peut être retenue. Il y a peut-être quelqu'un qui a un jabot. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il est dit, il ôtera le jabot. Il n'est pas dit, il ôtera les aliments qui sont dans le jabot. Les aliments non digérés. Il ôtera tout le jabot. C'est-à-dire qu'on peut avoir vidé les aliments, c'est-à-dire on peut avoir réglé une affaire, mais on a gardé le jabot. On a gardé ce côté de notre caractère qui fait que, quand il y a un problème, on garde rancune. Mais moi, quand je lis la parole, la rancune, ça fait peur. Lisez Caïn, ça l'a amené à la mort. Et peut-être que quelqu'un est là et dit, mais dans mon caractère, j'arrive pas à pardonner. Quand il y a un problème, je suis capable de le garder longtemps, longtemps, comme un aliment non digéré. Peut-être qu'en ce moment, il n'y en a pas, mais que le jabot, il est bien là. Et quand tu offres à Dieu, il faut que le jabot soit enlevé totalement. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est puissant pour changer notre caractère et nous transformer pour nous amener à l'image de Christ. Quand je vois les disciples qui ont dit à un moment donné à Jésus, parce qu'il n'avait pas été reçu dans une ville, « Veux-tu qu'on demande à la foudre de tomber dessus ?» Et que Jésus leur dit « Vos pensées ne sont pas... Vous ne comprenez pas de quoi vous êtes animés hein ? De quelles pensées ils étaient animés ?» Et puis quand on les voit plus tard, plein d'amour, de pardon. Pourtant, les mêmes disciples, on se dit, ils ont laissé leur jabot de côté. Est-ce que moi, je l'ai fait? Seigneur, c'est plein de grâce qui vient nous le dire ce soir. Il est capable de transformer le plus dur des caractères. Il est capable d'extirper ton jabot et de te donner la capacité de pardonner, la puissance du pardon de Christ dans ta vie. Et ça, ça passe par une meilleure compréhension de la croix. Tant qu'on n'a pas compris le pardon dans la croix, on reste sur ces positions-là. Le jabot. Il ôtera le jabot. Les plumes aussi. Vous avez vu ? Il ôtera les plumes. C'est quoi les plumes ? Les plumes, c'est la beauté naturelle de l'oiseau. Et permettez-moi cette expression, j'en connais un qui était un bel oiseau. Une forme de perfection dans le plumage. Philippiens chapitre 3, mais voilà ce qu'il dit de lui-même, l'apôtre Paul lui-même. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, première plume, de la race d'Israël, deuxième plume, de la tribu de Benjamin, troisième plume, hébreu né d'hébreu, quatrième plume, quant à la loi pharisien, cinquième plume, quant au zèle persécuteur, sixième plume. » Celle-là, elle n'est pas, hein, pas très belle. « Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Septième plume. Perfection humaine. Eh bien, voilà ce qu'il en dit, Paul. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Je voudrais continuer tellement ce texte est merveilleux, profond. Mais je ne peux pas continuer, ce serait trop long. On continue. Donc le plumage, vous avez compris ? L'orgueil. Moi, je suis comme ça. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est le Seigneur qui te l'a donné. L'humilité nous amène à offrir à Dieu une louange qui lui est agréable. Vous savez qu'on peut avoir l'orgueil spirituel. J'ai fait ça, j'ai vécu ça, j'ai fait telle expérience. On peut le dire pour témoigner, pour glorifier Dieu. Mais voyez, il faut faire attention de ne pas glisser sur la pente dangereuse, de le dire pour se glorifier. Moi, j'ai vécu ça. Moi, tu sais, ça fait tant d'années que je suis converti. Moi, tu sais. Et le Seigneur, il dit, ce sont que des plumes. Et ces plumes, il faut que tu les déchires. Devant moi, elles ne sont rien. Si tu es là, c'est ma grâce. Et si tu veux que ton offrande soit agréée, tu ne peux pas te présenter avec ça. Tu ne peux te présenter qu'en disant, « Seigneur, je ne suis rien, tu es tout. Tu as tout fait pour moi. Et tu es mon Dieu. Je reconnais ma faiblesse. » Voyez, il le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Voilà où doivent demeurer toutes ces choses. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel. Et voyez, il est dit que le sang aura été exprimé contre un côté de l'autel. Alors que dans le sacrifice parfait, il nous est dit qu'il aura été répandu tout autour de l'autel. Ah ! Là, le sang de Christ, La connaissance de Christ, elle n'a finalement qu'une version. Elle est limitée. Où en suis-je dans ma connaissance de Christ ? Je parlais des mystères, de la profondeur de Christ. Rappelez-vous, Ésaïe, il prophétise la venue de Christ. Qu'est-ce qu'il dit ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de paix. Peut-être que quelqu'un connaît le conseiller, mais il n'a pas la paix, parce qu'il ne connaît pas le prince de paix. Et si tu commences à découvrir les perfections de Christ, tu vas voir qu'il te faudra toute la vie pour apprendre à vraiment le connaître. Et notre connaissance du sang de Jésus doit pas rester, on ne doit pas en rester à l'ABC, je dirais, de l'évangile. Il faut rester simple. Mais la simplicité ne doit pas être, je dirais, l'excuse de rester dans le simplisme. Dieu veut nous conduire dans une meilleure compréhension de qui il est. Est-ce que vous connaissez des noms de Christ ? Il y en a combien ? Comment Jésus est nommé dans la parole ? Pardon ? Emmanuel ? Conseiller ? Dieu puissant, prince de paix, on l'a dit ? Éternel, roi des rois, seigneur des seigneurs, quoi encore ? Pardon ? L'alpha et l'oméga ? Le fils de Dieu ? L'agneau immolé. On pourrait continuer. Pardon ? Le bon berger. On pourrait... La porte, le chemin. Si on continue, on ne s'arrête plus, là. Oui, c'est vrai. Vous avez vu tout ce qu'on peut découvrir en Christ ? Vous croyez que ça vaut le coup de faire tout le tour de l'autel ? S'approcher du sacrifice de Christ, demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur réellement tout ce qu'il a fait, sur qui il est lui-même. Aller un peu plus loin, sonder les Écritures, comme je disais, commencer à dépouiller un petit peu et découper les morceaux, comme c'était dit dans ce premier. Je vais donner 3 exemples concrets, après je vais conclure, pour ne pas être trop long. On peut lire la parole, et on peut lire, mais lire par exemple toujours des choses qui nous plaisent, et ne jamais lire des choses qui nous remettent en question. On ne fait pas tout le tour, on n'a pas envie. Deuxième exemple, on peut lire certains livres parce qu'ils sont faciles à lire. Je lis les psaumes, j'aime les psaumes. Moi aussi, je vous assure, j'aime les psaumes. J'en lis tous les jours. J'aime les proverbes, je vous assure, j'aime. Mais est-ce que tu es déjà allé un petit peu dans l'hébreu ou dans les lettres de Paul pour essayer de comprendre un peu mieux et de laisser le Seigneur t'éclairer? Prendre un autre exemple. Ça fait 15 fois que tu lis le même mot, tu ne le comprends pas, mais ce n'est pas grave. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? On passe à côté de certains mystères cachés aux yeux de ceux qui ne veulent pas voir. Parce que moi, je lis dans la parole, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Je lis dans la parole que certains ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Et Seigneur, il parlait dans les paraboles, il expliquait à ceux qui venaient pour chercher l'explication. Tu as lu propitiatoire peut-être 20 fois, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je t'encourage à aller ouvrir un dictionnaire, à demander de l'aide, un conseil, à lire d'autres versets dans une référence, afin que Dieu t'éclaire. Tu as lu le mot expiatoire. Peut-être quelqu'un a lu le mot repentance et il ne sait pas ce que ça veut dire. Quelqu'un peut-être a lu, je ne sais pas, le mot apostasie. Mais vous verrez que quand vous allez commencer à découper, à sonder, le Seigneur va ouvrir vos yeux, votre cœur, et il va vous amener plus loin dans la révélation de Christ. Et Seigneur, il dit tout ça pour nous encourager. Va un peu plus loin. Je veux te prendre par la main. Voyez la grâce de Dieu, c'est qu'en conclusion, il appelle ça quand même un holocauste. En conclusion, c'est qu'il dit oui, si vous faites cela, vous ôtez le jabot, vous ôtez les plumes. Il y en a peut-être des plumes, il y en a peut-être un jabot, mais vous faites l'effort de l'ôter. L'effort, oui, il faut en faire parfois. Pierre le dit. Eh bien, le Seigneur, il dit, alors j'agréerai. Et il veut nous conduire à un sacrifice plus riche. Sacrifice de nos vies. Parce que finalement, le vrai sacrifice, c'est se donner entièrement. Alors, peut-être que quelqu'un en est là, il dit, c'est vrai, je suis un petit peu comme l'oiseau. C'est-à-dire, je vis aux dépens des autres. Je vis que de prédications. Je vis que de messages. Je vis sur les autres, etc. Et tout ce qu'on a partagé, je ne vais pas rappeler. Mais tu peux faire l'expérience de ce jeune garçon. Avant, peut-être qu'il t'arrive une affaire comme la sienne, où Dieu a été obligé de le mettre à un moment donné au pied du mur pour qu'il aille lui-même sonder et devenir autonome. Et c'est là que Dieu a pu le transformer, comme on l'a chanté, afin de ressembler à Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons comme lui. C'est que nous soyons édifiés afin d'être une habitation de Dieu en esprit pour parvenir à la stature parfaite de Christ, lui ressembler, être comme lui. Et ça, le Seigneur, il est obligé parfois de nous mettre à l'épreuve parce qu'on est dur, parce qu'on résiste. Non, ne résiste pas à sa voix. C'est une grande bénédiction pour toi que de pouvoir passer peut-être un sacrifice de ta vie qui est à son niveau, qui est à son étape. Mais Dieu veut te faire comprendre un peu mieux la relation qu'il a désirée avec toi. Tu es à l'oiseau, peut-être le Seigneur veut te passer au menu bétail. Tu es au niveau du menu bétail, le Seigneur veut t'amener au gros bétail, la vie entière, l'holocauste, tout pour lui, avec une compréhension non pas théologique ou de toutes les connaissances cérébrales, mais une compréhension, une connaissance de qui il est lui. Que son nom soit béni. C'est là que tu seras un témoin. C'est là que tu reflèteras la gloire de Jésus, comme Moïse qui avait la lumière qui reflétait son visage, parce qu'il avait parlé avec Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire pour nous, parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt et il veut sauver des hommes, mais il se servira de toi et de moi. Soyons à l'écoute. On va se recueillir. On va se recueillir quelques instants et je vais prier pour ceux qui le désirent. Pendant quoi, je vais demander à Jérémie, peut-être, mais il a préparé un cantique, c'est très bien, de venir. Je vais simplement vous demander de lever votre main à votre place, levez-la devant Dieu, pas devant un homme, mais réalisez que vous êtes devant Dieu. Simplement dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est plein d'amour. C'est pour ça qu'il vient et qu'il nous dit, mais je veux t'amener plus loin dans la compréhension de mon œuvre de la croix, plus loin dans ma communion avec toi, plus loin dans la sanctification. Veux-tu ouvrir ton cœur? Veux-tu mettre la parole en pratique? Veux-tu attacher à ton cœur mes préceptes et mes lois qui seront pour toi agréables, douces et bonnes? Amen. Je vous invite simplement à lever votre main et puis je prie pour vous. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui lèvent leurs mains à leur place maintenant. Tu les as vus et aucun ne t'est caché. Combien nous avons tous besoin d'aller plus loin avec toi dans notre foi et dans notre connaissance de ta personne. En réalité, nous sommes tellement loin de te connaître tel que tu es parfait, tellement tu es grand. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent par le Saint-Esprit. Fasse, je te prie, que le Saint-Esprit, oui, ouvre les yeux, révèle et donne à tous ses bien-aimés de mieux te voir, de mieux te connaître et de mieux s'offrir à toi, afin qu'ils puissent grandir à la stature parfaite de Christ, te ressembler, penser, agir, aimer comme toi, tel que toi nous voulons être, pour que le monde voie que nous sommes tes disciples, et qu'autour de nous, il y ait des hommes et des femmes qui passent de la mort à la vie, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés, et tu viens bientôt dans le nom précieux de Jésus. J'ai prié, nous avons prié ensemble et nous avons cru que tu as agi. Merci Seigneur. Amen.